Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau Roquois, nouvelle chronique du plateau diffusée sur Radio Axe Sud avec les assos et vous. Pour cette première, j'ai le plaisir d'être avec les garçons Johan et Romain. Salut les garçons.
Salut Ilona.
Salut Ilona.
Eh oui, aujourd'hui on vous propose une chronique en deux temps. On a le plaisir de recevoir Marlène Miès, acteur culturel fort de la commune, fondatrice de la compagnie Comme Si, installée depuis 10 ans sur Roc. On a décidé de l'interroger sur ses actions et sur cette période difficile pour les assos en raison du Covid.
C'est parti pour les assos et vous.
Bonjour Marlène, peux-tu nous dire comment tu as créé ta compagnie il y a maintenant 10 ans en arrière ?
Bonjour. Oui, donc en fait, effectivement, c'était il y a 10 ans. Je suis arrivée sur la commune de Roc un peu par hasard, en répondant à une annonce Pôle emploi pour être animatrice. Et donc, je me suis retrouvée animatrice à l'espace jeunesse. Et en parallèle, je sortais d'une formation de comédienne. J'avais déjà travaillé un petit peu en tant que metteur en scène et je voulais monter une compagnie. Et voilà, les hasards de la rencontre entre une commune et mon envie de monter la compagnie. Et j'ai créé la compagnie comme ça sur Roc et qui a été très bien accueillie tout de suite et qui a très bien marché tout de suite. Donc 10 ans après, je suis encore là.
Merci. Ouais. Quel a été ton parcours professionnel ?
Alors, moi, en termes de formation, j'ai passé mon bac scientifique, option maths. Et puis après, j'ai fait une école préparatoire littéraire. Donc, j'ai exploré les deux côtés. Et derrière ça, je suis partie à Paris pour faire une école professionnelle d'art de l'acteur. Et en parallèle, une licence d'études théâtrales à la Sorbonne. Donc, voilà, j'ai appris mon métier comme ça. Et ensuite, je suis revenue à Toulouse où là, j'ai décidé donc de monter ma propre compagnie qui me permet de travailler sur trois axes qui sont importants pour moi dans le théâtre, à savoir la formation d'acteurs, la pédagogie, la direction de mise en scène avec des amateurs, que ce soit des enfants ou des adultes, la médiation culturelle. C'est-à-dire travailler avec des publics spécifiques, que ce soit les jeunes de l'espace jeunesse de Roc, de l'accompagnement à la scolarité, que ce soit des adultes en situation de handicap ou des choses comme ça. Et puis la diffusion de spectacles professionnels avec moi, soit en tant que comédienne, soit en tant que metteur en scène. Voilà.
Et pourquoi avoir choisi le théâtre ?
Bonne question. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est un peu un hasard. Moi, j'ai commencé le théâtre au lycée, donc assez tard. J'ai plutôt commencé par le cirque. J'ai fait beaucoup de cirque quand j'étais petite. Et j'ai découvert le théâtre à 15 ans. Et j'avais une passion déjà pour les arts de la scène en général. Mon papa est clown, donc j'ai aussi grandi là-dedans. Et il y a un moment où ça s'impose. C'est pas un choix facile parce qu'on sait que ça va être compliqué de vivre de ça. Mais il y a un moment où essayer vraiment de vivre des arts de la scène, ça s'impose un petit peu à nous.
Qu'est-ce qui te passionne dans le théâtre ?
Le rapport au public, je pense. C'est vraiment le rapport à l'humain. Pour moi, faire du théâtre, c'est profondément travailler sur l'être humain. On travaille déjà avec ce qu'on est en tant que personne, que ce soit physiquement ou à l'intérieur. On travaille sur les émotions énormément. Et puis, on travaille pour faire ressentir des choses à un public. Donc, être sensible à l'humain, je crois que c'est ce qui me passionne le plus.
Pour toi, qu'est-ce qu'on apprend en faisant du théâtre ?
Tout. on apprend à se connaître. Ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que faire du théâtre, c'est pas chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas, alors que finalement, c'est ce qu'on fait. On joue des personnages qu'on n'est pas, mais par contre, on les joue avec ce que nous sommes profondément. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais avoir des qualités de comédienne qui ne sont pas les mêmes que les tiennes. Et notre travail, ensemble, en faisant du théâtre, c'est de découvrir nos qualités à chacune. Et ce n'est pas les mêmes. Et c'est ça qui est génial. c'est que justement c'est pas les mêmes et que justement on va les développer différemment. Donc c'est ça, on apprend à se connaître, on apprend à être honnête, sincère, sensible, on apprend à être avec l'autre, on apprend à prendre conscience de soi, des autres, des rapports humains. Je pourrais parler longtemps là-dessus. Pour moi, on apprend tout au théâtre, tout ce qui est essentiel à mes yeux.
Ok, et quel genre de pièces aimes-tu créer ?
Alors moi, j'aime bien les pièces qui nous font réfléchir ou qui portent une pensée qui me touche. C'est-à-dire que j'aime bien que le public qui vient voir un spectacle ressorte avec des interrogations, des réflexions, des manières de penser un petit peu différentes. Donc j'aime beaucoup tout ce qui touche les questions de société, tout ce qui touche les questions de notre place dans le monde ou des choses un petit peu comme ça qui viennent nous questionner. Voilà.
Ok, mais de quoi t'inspires-tu ?
De vous, mais c'est vrai, de ce qui m'entoure. C'est ça le plus important, c'est que moi j'ai la chance de faire du théâtre avec énormément de gens différents. Et il m'est arrivé de travailler par exemple le même texte avec des groupes différents. Et c'est jamais le même spectacle. Parce qu'en fait la matière première et l'inspiration première, comme tu dis, c'est la personne qui va s'exprimer sur le plateau. C'est ça qui est le plus inspirant.
Ok.
Qu'est-ce qui est important quand on est comédien ?
Je pense de faire attention à ne pas être tout le temps en représentation. C'est-à-dire qu'on fait un métier dont une des finalités est d'être applaudi, dont une des finalités est d'être regardé par tout le monde, et des fois ça peut donner la grosse tête. Et donc, on peut se tromper et être tout le temps en représentation, être tout le temps dans du faux. Il faut se rappeler que le théâtre, c'est pour de faux, quand même. Et je pense que quand on est comédien, bah, il faut se rappeler que la vie, c'est pour de vrai. Et donc, faire attention dans la vie de ne pas être dans le théâtre.
Et comment on est metteur en scène ?
Alors, il n'y a pas d'études spécifiques à être metteur en scène. Enfin, il y en a, mais c'est des très, très grandes écoles, très, très peu accessibles. Mais sinon, on est metteur en scène parce que tout d'un coup, on a envie de dire quelque chose de spécifique avec un spectacle et qu'on ne peut pas le dire en étant comédien. On a envie de montrer son point de vue sur une pièce ou sur une manière de jouer. Et donc, on se met à diriger des comédiens pour défendre notre point de vue et on devient metteur en scène. Après, ça suppose bien sûr d'avoir quand même quelques connaissances de jeu, d'espace, de mise en lumière, de tout ça. Enfin, quelques techniques de metteur en scène, mais c'est surtout parce qu'on a quelque chose à dire.
Merci.
Avec plaisir.
Suite à la crise actuelle, quelles sont les difficultés rencontrées pour ta compagnie ?
Eh bien, elles sont nombreuses. La première difficulté, c'est que l'année dernière, dès le mois de mars, dès le confinement, on a dû arrêter net toutes nos activités. Donc, il y a beaucoup de spectacles qui n'ont pas vu le jour. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens et qui ne seront pas reprises. Donc ça, c'est une première difficulté qui engendre évidemment des difficultés financières, puisque du coup, il y a des contrats qui n'ont pas pu être honorés jusqu'au bout et donc qui n'ont pas été payés. On a dû rembourser certains adhérents de leurs cotisations. Et puis là, cette année, enfin cette saison, puisque nous on parle en saison de septembre à août globalement, cette saison c'est très compliqué parce qu'on a commencé à reprendre en respectant tous les protocoles sanitaires, toutes les règles qui sont très contraignantes dans notre pratique, mais bon, on respecte. Et puis maintenant, les conditions se durcissent un petit peu, donc les salles où on travaille sont à nouveau fermées. Moi, par exemple, j'étais en résidence il y a quelques jours, et puis finalement, j'ai pu faire qu'une journée de résidence, puisqu'après, les salles ont été fermées. Voilà, ça veut dire que je ne peux plus répéter, je ne peux plus travailler avec les gens. Là, c'est très compliqué. On est un peu bloqué.
Oui. Est-ce difficile de s'adapter aux contraintes sanitaires ?
Oui, c'est difficile parce que ça nous oblige à penser notre art différemment. Il est évidemment évident qu'on respecte le protocole sanitaire, donc ça veut dire le gel hydroalcoolique, les masques, rester le plus possible à distance. Et surtout, pour l'instant, moi, j'ai adapté mon travail en faisant en sorte que les gens puissent travailler tout seuls sur le plateau, c'est-à-dire pour l'instant de ne pas créer d'interaction qui suppose d'être proche. Donc on a axé un peu plus le travail sur la technique, voilà, apprendre à bouger, apprendre à parler, en travailler un peu plus la voix, la diction. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles en amont d'une création, donc pour l'instant on le fait. Ça va être très compliqué au fur et à mesure de l'avancée de l'année, mais voilà, on se réinvente, en tout cas on essaye.
Ressens-tu une certaine compréhension et un accompagnement de la part de la municipalité ?
Alors, une compréhension, oui, c'est-à-dire que je crois qu'il faut, il faut se rendre compte que c'est très compliqué pour la municipalité aussi de réagir dans ces circonstances-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que les associations à gérer, il y a plein de choses à gérer sur la commune. Après, il est vrai que nous, on se sent un petit peu isolés, on aimerait bien avoir plus d'échanges, on aimerait bien comprendre pourquoi nos salles sont fermées alors que l'arrêté préfectoral ne l'impose pas. Voilà, prendre à conscience que les choses sont très difficiles et que chacun fait de son mieux. Mais c'est vrai que là, on aurait besoin de plus de dialogue.
Au niveau des adhérents, sont-ils en accord avec la pratique actuelle du théâtre ?
Les adhérents sont super. Ça, c'est un truc... on a beaucoup de chance, ou en tout cas... Oui, je crois que c'est ça. On a beaucoup de chance parce que déjà, les adhérents sont là. Ils sont revenus cette saison alors qu'ils auraient pu décider de faire une pause parce que le Covid n'est pas rassurant. Mais non, ils sont là, ils nous soutiennent, ils nous aident à trouver des solutions, ils se mobilisent et ils acceptent de faire du théâtre différemment. Donc ça, c'est très chouette.
Comment envisages-tu la suite une fois cette crise derrière nous ?
Déjà, j'espère qu'elle sera derrière nous un jour. J'envisage surtout de jouer encore plus. Faire du théâtre, c'est jouer. En ce moment, on joue pas beaucoup. Et ça se sent dans l'ambiance générale, le monde manque de jeu, donc j'espère qu'on pourra offrir du jeu, qu'on pourra retrouver des sourires non masqués, qu'on pourra retrouver des salles de théâtre pleines. Voilà, je pense qu'on en a besoin, on a besoin de culture, on a besoin d'évasion culturelle, on a besoin de ce temps pour nous.
Marlène, avant que Johan et Romain fassent leur petit quiz qu'ils ont prévu pour toi, si tu devais faire une photo de la compagnie il y a 10 ans en arrière et la photo de la compagnie aujourd'hui, la différence, elle se situe où ? Alors, sans prendre en compte le contexte Covid, parce que c'est un peu particulier, mais pour toi, la différence, elle se situe où ? Il y a 10 ans en arrière et à aujourd'hui ?
Il y a 10 ans en arrière, c'était tout petit. J'ai commencé avec 4 groupes à peine remplis. Je crois que j'avais 14 adhérents la première année. On est à une centaine cette année, donc voilà, clairement, la différence, elle est là, elle est sur cette aventure humaine qui est incroyable et qui grandit, et les gens sont là, et voilà, mon plus jeune adhérent, il y a 10 ans, était en CE1, je crois, il est rentré en terminale cette année, voilà, moi ça m'émeut, je trouve ça chouette.
Marlène, dans cette chronique, les assos et vous, on a décidé de tester nos invités, ça te dit ?
Oui, avec plaisir.
Question, ta couleur préférée ?
Le bleu.
Ton animal préféré ?
Le chat.
Ta plus grosse qualité ?
L'écoute.
Ton plus gros défaut ?
Le bavardage.
Et ta devise ?
Au théâtre, comme si est la vérité.
Marlène, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. On te dit bon courage pour la suite. Et nous, on se retrouve très vite pour la seconde partie de la chronique « Les assos et vous ».
Mais en attendant, petite pause avec ce morceau de musique qu'on adore.
De retour sur la chronique Les assos et vous. On a le plaisir d'avoir sur le plateau Madame Sylvie Tourné, adjointe à la vie associative et au moulin sur notre commune de Roc. Bonjour Madame Tourné.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourriez-vous vous nous présenter ? Nous dire depuis combien de temps vous êtes sur la commune et qu'est-ce qui vous a poussé à être sur la liste municipale ?
Bonjour. Ça fait quasiment 30 ans que je suis sur la commune de Roc. Mes enfants ont grandi ici, sont allés à l'école. Et on connaît aussi le centre de loisirs. Ce qui m'a poussée à m'engager dans la vie de la commune, c'est déjà l'amour du village, parce que c'est un très joli village, nous avons la chance d'avoir de très beaux espaces. Et c'est envie de refaire vivre socialement et culturellement une commune qui a des atouts très forts. Je pense notamment à l'infrastructure qui est le tiers-lieu, le moulin, qui offre beaucoup, beaucoup de possibilités, tant sur le plan culturel que sur le plan associatif.
Donc, Madame Tourné, vous avez été élue dans la liste de Monsieur Mabir aux dernières élections municipales en mars, et le conseil municipal a été installé en mai en raison du Covid toujours présent. N'est-ce pas un début de mandat compliqué à gérer ?
C'est très compliqué à gérer, effectivement. Le Covid nous a fait prendre beaucoup de retard sur des dossiers qui étaient urgents, tant sur le plan social, urbain, au niveau de la commune aussi, les espaces verts qui avaient besoin d'énormément d'entretien. Donc ce retard je ne dirais pas a été préjudiciable dans le sens où il a fallu reprendre les dossiers à bras le corps et prendre des décisions très très vite. Nous faisons rentrer les choses dans l'ordre petit à petit. C'est pour ça aussi qu'il y a certains éléments qui sont un peu plus lents. Nous sommes obligés de prioriser certaines actions, forcément.
Est-ce que pour être adjointe à la vie associative, il faut obligatoirement connaître le milieu associatif ? Faut-il être passionné par le sport ? Le lien avec les assos s'est-il fait naturellement ?
Alors, pour être adjointe à la vie associative, je crois que déjà, la première chose, c'est être social. Voilà. Il ne s'agit pas d'être très qualifié, ni en sport, ni en quoi que ce soit, mais déjà aimer les rencontres, avoir des projets, être porteur de vie, de sociabilité, essentiellement.
Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'élu d'une commune comme Roc ?
En tant qu'élu, c'est déjà fédérer autour des projets, autour des idées. Forcément, il y aura toujours des personnes qui n'auront pas les mêmes visions. C'est répondre aux demandes qui sont parfois urgentes, mais pour lesquelles les communes n'ont pas forcément les moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient techniques, qu'ils soient humains, pour y répondre. Il y a beaucoup de compétences qui entrent en jeu, que ce soit l'agglo, que ce soit la région, que ce soit l'État. Donc la municipalité n'a pas forcément les coudées franches pour agir, même si parfois elle voudrait répondre dans l'urgence à une situation, elle ne peut pas forcément y répondre de la façon la mieux adaptée.
Quelles sont les demandes des assos envers la municipalité ?
Envers la municipalité, il y a d'abord des demandes forcément de locaux, puisque les associations ont besoin de locaux, à la fois pour exercer leur activité, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit récréative, de finances forcément, aider aussi les associations à gérer un budget, à pouvoir exister, en dehors des abonnements, qui sont quand même une grosse partie pour la plupart de leur financement, et les aider aussi, être avec eux pour justement fédérer les associations, essayer de créer une certaine transversalité entre elles, pour qu'elles puissent aussi, dans la commune, organiser des grosses manifestations. Alors on pense aux bourses de Noël, on pense au forum des associations, et également des actions que nous aurions aimé mener, que nous n'avons pas pu à cause du Covid. Je pense à Octobre Rose, je pense au Téléthon, nous pensions organiser quelque chose. Ça va être mis à mal. Voilà.
Quelles sont les difficultés rencontrées suite à la crise de Covid ? Est-ce difficile de s'adapter aux contraintes sanitaires ?
Personnellement, c'est difficile. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde parce que déjà, on perd le contact. On ne peut plus s'approcher. La distanciation, c'est quelque chose qui, psychologiquement, est quand même difficile. En plus, le Covid a créé beaucoup d'exigences techniques, humaines et financières. Bon, ne fût-ce que le nettoyage de l'école, par exemple, qui doit être exemplaire, donc qui demande des ressources humaines assez fortes.
Quelles solutions pouvez-vous nous apporter aux assos en cette période particulière ?
Des solutions, c'est compliqué, parce qu'on essaie de faire au mieux pour qu'elles puissent continuer leurs activités. Alors évidemment, il y a des arrêtés préfectoraux derrière qui nous imposent des restrictions très fortes. Donc pour l'instant, les associations ne peuvent plus exercer leur activité qu'avec les mineurs. Toutes les manifestations adultes sont interdites. Donc ça complique énormément leur vie, d'autant qu'il y a des abonnements qui courent sur les années. Il y a parfois des revendications, et c'est légitime, de la part des abonnés pour ne pas payer des mois sur lesquels ils ne pourront pas bénéficier de ce pourquoi ils se sont inscrits. Alors c'est vrai que le rôle aussi, c'est de rentrer en lien avec la population pour qu'ils comprennent que l'association, c'est avant tout du bénévolat. Ce sont des personnes qui sacrifient leur temps, leur énergie pour créer de la vie et du lien social sur la commune. Et c'est à nous, après, tous les acteurs de la commune, qu'ils soient politiques, qu'ils soient administrés, c'est à nous à les aider, à les soutenir au maximum.
Comment envisagez-vous la suite, une fois cette crise derrière nous ?
Une fois la crise derrière, nous allons déjà pouvoir reprendre un rythme de vie normal. Donc, j'espère surtout qu'il n'y aura pas trop, je veux dire, le mot est dur, mais je veux dire, de cadavres derrière. parce que j'ai beaucoup de commerces en souffrent et vont continuer à en souffrir. Les associations en souffrent. Individuellement, il y a beaucoup de souffrance aussi sur des personnes qui sont dans la crainte, qui sont dans l'angoisse, qui ont des proches qui sont fragiles ou qui eux-mêmes sont fragiles, qui n'osent plus aller vers l'autre, qui n'osent plus faire de projets, qui se retrouvent isolés. Donc j'espère qu'après la crise, nous pourrons humainement retrouver un lien et aider tous ceux qui sont restés en arrière et qui ont du mal à revenir sur le devant de la scène et sur une vie plus apaisée.
Alors, Madame Tournay, moi j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est quel regard vous portez sur le village d'aujourd'hui et sur la différence du village il y a 30 ans en arrière ?
Il y a 30 ans en arrière, le village était plus dynamique de façon plus visible. Bon, il y avait des fêtes foraines, il y avait un camping, il y avait une vie qui était très animée sur ce village. Et c'est vrai que petit à petit, mais c'est aussi les rythmes de vie qui influent énormément, petit à petit, Roc a commencé à glisser vers ce que j'appellerais peut-être une cité dortoir. Où, alors, heureusement, il y a encore les jeunes et il y a les associations qui créent justement beaucoup d'animation. Les week-ends, il y a des tournois, il y a des loisirs, il y a des enfants qui, heureusement, recréent une dynamique perpétuelle. Mais c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement au niveau de la vie adulte et de la vie festive. Il y a eu un gros ralentissement sur la commune.
Et donc ma deuxième question, c'est en tant qu'adjointe à la vie associative et au moulin sur la commune, c'est comment on fait pour gérer une multiplicité d'acteurs finalement, qu'ils soient sportifs, culturels, acteurs sociaux aussi avec les associations caritatives. Comment on fait pour gérer tout ça finalement ?
Alors là, nous avons un projet en fait justement sur la commune qui permettrait une certaine transversalité entre tous les partenaires, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient municipaux, et également évidemment tous les administrés, essayer justement de trouver le lien entre tous pour arriver à gérer les situations non pas de façon unilatérale, mais de façon transversale et collégiale.
Madame Tournay, dans cette chronique, les assos et vous, on a décidé de tester nos invités. Ça vous tente ?
Allons-y.
Question 1. Votre couleur préférée ?
Le jaune.
Votre animal préféré ?
Le chat.
Votre plus grosse qualité ?
La gentillesse.
Votre plus gros défaut ?
L'insouciance.
Et votre devise ?
Demain sera un autre jour.
Merci, Madame Tournay, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de cette première chronique, les assos et vous. Romain et Yoann, bravo pour votre travail et à très vite pour de nouvelles rencontres sur Radio Axe Sud.
Merci Luna.
On se retrouve très vite.
Sur Axe sur 105.1.
Merci.
Merci.
Merci à vous trois.